France Musique.
Je vous retrouverai dimanche prochain, bien sûr, mais également demain à partir de 6h30 et 22h sur France Musique, à l'occasion des grands entretiens que j'ai eu la chance et l'occasion de réaliser avec le violoncelliste Vincent Courtois. Il est 20h sur France Musique, la soirée continue avec toute l'équipe du Carrefour de la Création et Thomas Vergracht.
Bonsoir à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver au Carrefour de la Création, le grand rendez-vous des musiques d'aujourd'hui, de 20h à minuit et demi sur France Musique. Ce soir, on pulse, on swing, on twee et bap, car dans la continuité de Repassez-moi le standard, on explore les liens entre la musique contemporaine et le jazz. À 21h, j'aurai la chance de recevoir le pianiste et compositeur Roberto Negro, qui nous fera même le plaisir d'improviser depuis notre studio. Et à 22h, Arnaud Merlin nous proposera une exploration de ses concerts favoris, entre jazz et contemporain toujours. À 23h, on entendra la création mondiale de Edith Cana de Chizy par la pianiste Dana Ciocarli, présentée par Anne Montaron. Et à 23h30, l'expérimental de François Bonnet s'embarquera dans un documentaire autour de la Divine Comédie de Bernard Parmigiani et François Bayle. Mais pour l'heure, c'est les actus. 20h45, le journal de la création de Laurent Villarem, mais je vous laisse dès maintenant en compagnie de Émilie Munera et Rodolphe Bruno-Boulmier pour En Piste Contemporain. Belle soirée sur France Musique.
France Musique, En Piste Contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno-Boulmier.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe, deux instruments à cordes pour ouvrir cette émission. Vous les entendez maintenant derrière moi. Un violon et un violoncelle jouent la musique de Sofia Gubaidulina.
Thank you.
Rejoice, sonate pour violon et violoncelle, jouée par Baïba Skridé et Harriet Krieg, pièce de Sofia Gubaidulina, cette compositrice née en 1931. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une des plus grandes figures de la musique moderne russe, jouée dans le monde entier par des interprètes de renom, et notamment le violoniste Gidon Kremer, qui a fait aussi beaucoup pour populariser sa musique. Un disque important sort aujourd'hui, qui nous permet d'entendre, en plus de cette sonate, le triple concerto. On retrouve la violoniste et la violoncelliste que vous venez d'entendre. Et la troisième soliste de cette œuvre, c'est l'accordéoniste Elsbeth Moser, une musicienne qui connaît bien Sofia Gubaidulina et qui joue ici du baïan. Vous connaissez le baïan ?
Non, ça doit être un instrument populaire, non ?
C'est un accordéon chromatique qui date du XXe siècle et la compositrice l'a découvert à la fin des années 70 et ça l'a tout de suite fascinée. Et donc, Elsbeth Moser lui a inspiré cette pièce. Sofia Gubaidulina a placé le chiffre 3 au centre de son concerto 3 solistes. Un concerto divisé en trois parties et une utilisation d'écriture en tierces et en triades. Une œuvre toute en tension, très sombre, dense, qui a été créée en 2017 par les trois interprètes avec le NDR Radio Philharmonie dirigé par Andrew Manze. Le concerto dure une trentaine de minutes et on va en écouter un extrait.
Oh.
Un extrait du triple concerto de Sofia Gubaidulina, Bay Baskridé, Ariette Kriegs, Elsbeth Moser, le NDR Radio Philharmonie dirigé par Andrew Manze. C'est notre disque contemporain de la semaine. Et j'ai évoqué Gidon Kremer qui a popularisé sa musique. Et je crois que
on va le retrouver
pas la
dans mon
seule
disque.
Compositrice qui l'a défendue.
Absolument.
Les classiques de la contemporaine, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Alors, vous savez, Émilie, le compositeur est un être solitaire, mais lorsqu'il est accompagné par une muse ou un compagnon de route, eh bien, ses forces sont décuplées. Dutilleux avait Geneviève Joie, par exemple, Messiaen avait Yvonne Loriot, et ce ne sont pas toujours des histoires d'amour, et il y a aussi des compagnonnages d'amitié qu'Aya Sarriao avait Esa-Pekka Salonen, et ceci a donné de très grands disques, des œuvres qui sont faites de la part de ses amis du conservatoire. Et donc, dans notre disque, cette fois-ci, ce soir, notre disque de légende, eh bien, c'est Graal Théâtre. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre qui a été jouée par Gidon Kremer. C'est une œuvre d'une incroyable virtuosité. D'ailleurs, Aya Sarriao a écrit cette œuvre pour ce violoniste et pour repousser aussi la virtuosité du violon à ses limites. Et donc, c'est une œuvre qui est, paraît-il, plus dure que les études de Paganini. Et c'est aussi parce que ça utilise les nouvelles techniques instrumentales pour le violon. C'est une œuvre impressionnante. Le titre est une allusion à une nouvelle de l'écrivain français Jacques Roubaud. Et Aya Sarriao y voit ici une métaphore de la forme de la pièce comme des relations entre soliste et orchestre. Esa-Pekka Salonen a beaucoup défendu la musique de Aya Sarriao et ça donne évidemment des disques de légende. Graal Théâtre dans nos classiques de la contemporaine, c'est ce disque de Kaya Sarriao que vous avez entendu ici, et notamment ce concerto pour violon, Gidon Kremer au violon, le BBC Symphony Orchestra, sous la direction du grand ami de Kaya Sarriao, Esa-Pekka Salonen. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de disques de cette compositrice disparue il y a peu, et si vous voulez vous plonger dans sa discographie, heureusement, on peut entendre plein de choses différentes, de l'opéra jusqu'aux pièces solistes.
Et elle réapparaîtra sûrement d'ailleurs de nos classiques de la contemporaine.
Oh oui,
parce qu'on y fait une apparition
là,
une fois dans cette rubrique.
Là, j'en ai pris un disque, mais on pourra évidemment en prendre plein d'autres. L'amour de loin, enfin, il y a plein de disques mythiques déjà de Kaya.
Suite de notre actualité du disque avec le trio Pascal. Vous connaissez le trio Pascal ?
Mais oui, c'est un père et deux fils.
Voilà, le pianiste Denis Pascal et ses deux fils, le violoniste Alexandre et le violoncelliste Aurélien. Alors, on a l'habitude de les entendre dans le grand répertoire. Et là, ils sont associés au contre-ténor Paul Figuier pour un disque de musique de notre temps. Un programme qui regarde du côté de la musique minimaliste avec Arvo Pärt, ainsi que deux compositeurs français qui ont chacun écrit une pièce spécialement pour ce programme, Jean-Philippe Goud et Bruno Coulet. Le premier est l'auteur d'un Miserere, le second d'un diptyque, et ce sont deux très belles pièces élégiaques et sensibles. On va écouter deux mouvements de l'œuvre de Bruno Coulet, qui est un ami de longue date du pianiste Denis Pascal. Elle est basée sur un texte du Cantique des Cantiques, et Bruno Coulet reconnaît plusieurs influences. La musique de Bach, un compositeur dont il se sent très proche, et notamment de son art du contrepoint, et la musique d'Europe centrale, dont certains thèmes vont traverser ce diptyque. Une œuvre donc portée par la voix de contre-ténor de Paul Figuier, une voix que Bruno Coulet a toujours aimé pour son aspect troublant, dit-il. J'aime les voix troubles qui dégagent quelque chose de secret et ne correspondent pas à une norme ou à une école.
Thank you. dolce tu pulcheres, dilecte mi et decoris, lectulus noster.
Diptyque, la musique de Bruno Coulet par Paul Figuier et le trio Pascal. C'est un nouveau disque qui vient tout juste de sortir. Vous entendrez également la musique de Jean-Philippe Goud et celle d'Arvo Pärt.
France Musique, en piste contemporain, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Et puis, il nous reste un peu de temps pour écouter une grande partition. Alors, on peut pas tout écouter. C'est une pièce qui dure 35 minutes. C'est une sorte de grande sonate pour piano. C'est la musique de Jacques Leno. Ça s'appelle Rilke Fragmente. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Rilke, le poète, eh bien, finalement, Jacques Leno dit que c'est sa musique, la musique de Rilke, qui l'a retenu. Et c'est un disque où il est couplé avec Scriabine et il dit que c'est la poésie de Scriabine. Donc, finalement, le musicien devient poète et le poète devient musicien et le tout donne une grande œuvre pour piano. Partition étonnante, je disais, Jacques Leno, 79 ans maintenant, un compositeur libre dont l'œuvre vient de la modernité, mais une modernité qui n'agresse pas, qui n'est pas non plus trop radicale, parce qu'il y a beaucoup de références littéraires, théâtrales, et des références aussi aux musiques du passé dans l'œuvre de Jacques Leno. C'est ici un jeune pianiste qui s'empare de cette partition, c'est Christian Monti, et ce disque justement intercale les œuvres de Scriabine avec celles de Jacques Leno. On écoute un extrait de ces Rilke fragments de Jacques Leno.
Thank you.
La musique de Jacques Leneau, cette partition pour piano inspirée de la poésie de Rilke. Et c'est Christian Monti qui joue ceci.
Merci à notre équipe, celle qui était avec nous ce soir. Philippe Petit a réalisé cette émission avec Thomas Guinegagne et Élise Dubost.
Et tout de suite, c'est le journal de la création avec Laurent Villarem. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Laurent.
Le journal de la création, Laurent Villarem.
Bonsoir à toutes et à tous. Au Carrefour de la Création, on souhaitait coordonner une grande soirée mêlant jazz et musique contemporaine. Puisqu'à 21h, juste après le journal, Thomas Vergrache invite le pianiste jazz Roberto Negro. Or, il existe en ce moment une grande actualité de concerts mêlant jazz et musique contemporaine, comme si on vivait un nouvel âge d'or entre les deux styles. Le premier programme a eu lieu le 18 octobre à la Comète de Châlons-en-Champagne, une rencontre étonnante, puisque les musiciens de l'ensemble intercontemporain jouaient aux côtés de l'Orchestre National de Jazz dans un programme mélangeant trois créations. Une d'une compositrice contemporaine, Sophia Avramidou, et de deux musiciens jazz, Andy Hemmler et Frédéric Morin. Reportage en Champagne. Frédéric Morin, vous êtes l'actuel directeur de l'Orchestre National de Jazz et vous venez de donner à la Comète de Châlons, jeu, aux côtés de l'ensemble intercontemporain. Je précise que ce programme sera redonné le 24 janvier au Conservatoire de Montreuil. Frédéric Morin, les musiques jazz et contemporaines n'ont jamais été aussi proches ?
Oui, mais je crois qu'elles ont toujours été très proches, en fait. Même s'il y a eu une époque où peut-être il y a des gens dans la musique contemporaine qui n'étaient pas des grands fans de jazz, je crois que les musiciens de jazz, de leur côté, sont toujours intéressés à la musique contemporaine, enfin la musique de leur époque. Donc il y a toujours, je crois, une connexion qui a existé.
Ça s'est swingé, un musicien de l'ensemble intercontemporain ?
Absolument. Ça s'est totalement swingé, parce que le swing, c'est pas juste faire du swing sur de la musique des années 50 ou 60. Le swing, c'est vraiment une façon d'approcher le rythme dans l'improvisation et d'être réactif et d'être, je dirais, au taquet.
Samuel Favre, vous êtes percussionniste de l'ensemble intercontemporain. Vous avez travaillé avec Roberto Negro et maintenant il y a ce concert avec l'Orchestre National de Jazz. Qu'est-ce que ces projets de jazz vous apportent ?
Pour moi, ce n'est pas vraiment des projets de jazz, c'est des projets d'ouverture. Parce que je ne pense pas qu'on puisse se prétendre jazzman après avoir fait deux concerts, même ce soir et puis avec Roberto Negro. Mais c'est vraiment ouverture, trouver des rencontres, trouver comment on arrive à communiquer et à pas trop se déstabiliser les uns les autres. Et en même temps, on s'enrichit. On est là pour s'enrichir quand même, à la base. Je pense que pour quelqu'un d'habitué à jouer de la musique quasiment toujours sur partition, j'ai eu quand même curieusement l'impression de devoir apprendre à écouter en jouant. D'une autre façon. Alors, normalement, j'écoute, mais là, je ne sais pas. Il y a quand même un truc en plus, un truc un petit peu différent. Le fait qu'il y ait de l'impro et des choses spontanées auxquelles on voit plus de liberté. Et je ne dis pas ça comme si j'étais emprisonné tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent au niveau de l'écoute.
Andy Hemmler, vous êtes l'un des grands noms du jazz français. Que vous ont apporté les musiciens de l'ensemble intercontemporain ?
Ben déjà, moi, je suis très, très honoré d'être joué par ces virtuoses. Et les 14 musiciens, on ne fait absolument pas la différence sur scène qui est de l'intercontemporain et qui est de l'ONG. Il y a une vraie alchimie qui fonctionne entre les 14 musiciens. Ça, c'est assez exceptionnel. Et moi, j'ai appris beaucoup à les regarder travailler.
Avec ce concert et celui de Roberto Negro, peut-on parler de renouveau ?
Personnellement, j'ai vu le concert avec Roberto Negro, je suis allé à l'Ermitage, j'ai adoré le programme. Renouveau, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les langages des compositeurs d'aujourd'hui, comme je vous dis, ils ont digéré tout ce 20e siècle, tous ces styles, et ils ont envie de créer autre chose. Alors, ils ne font plus du swing et des standards, ils font autre chose. Ce sont les nouveaux standards français.
Et j'ai enfin demandé à Frédéric Morin, vit-on un nouvel âge d'or de rencontre entre le jazz et la musique contemporaine ?
Alors peut-être que c'est en ce moment, oui, y a une envie comme ça de casser les murs un peu et de sortir des codes habituels. Après, quand je regarde ce qui s'est passé, la fin des années 60 et début des années 70 ont été extrêmement fertiles à ce niveau-là aussi. Donc je crois que cette envie, pour moi, elle a toujours existé. Mais là, il se trouve que c'était les bonnes personnes au bon moment.
Le programme « Jeux » de l'Orchestre National de Jazz et de l'Ensemble Intercontemporain a été donné le 18 octobre à la Comète de Châlons-en-Champagne et sera redonné au Conservatoire de Montreuil le 24 janvier. On reste dans les mélanges fertiles entre jazz et musique contemporaine, cette fois dans un opéra. Le pianiste et compositeur jazz Jean-Marie Machado fait l'événement de la saison lyrique, puisqu'il crée du 7 au 10 novembre à l'Opéra de Rennes un opéra, La Falaise des Lendemains, sur une mise en scène de Jean Lacornerie avec son orchestre d'Ansas. Le spectacle partira en tournée le 18 janvier à l'Opéra de Tourcoing, le 24 janvier au MC2 de Créteil, du 26 février au 1er mars à l'Opéra de Rennes et le 24 avril à l'Opéra d'Angers. Jean-Marie Machado, bonsoir.
Bonsoir.
Un compositeur jazz à l'opéra, on aura décidément tout vu.
Ah oui, ben ça et puis il va falloir être prêt à en revoir d'autres, parce que on compte bien, avec cette forme à l'opéra, vraiment déclencher une nouvelle façon de voir. En fait, c'est dû à deux choses principalement. Les directeurs d'opéra, dont Alain Surance, Mathieu Ritzer, Enrique Terrin et Fanny Bertin, même si elle est à la MAC de Créteil, mais quand même, on la joint aux autres, voient aujourd'hui les compositeurs d'autres environnement que des musiques classiques actuelles, les voient comme un potentiel de c'est un plus pour eux, pour leur opéra. Donc ils ouvrent leurs portes à des compositeurs qui viennent d'horizons très différents. Le jazz en fait partie.
Quelle est l'histoire de cette falaise des Lendemains?
Alors c'est une tragédie qui pourrait bien inspirer un opéra. Voilà. Comme ça tombe bien, parce qu'on en fait un opéra. Donc en fait, on a tous les ingrédients. Passion, jalousie, amour fou qui va trouver une issue dans l'éternité, puisque naturellement, il va y avoir beaucoup de bagarres et de violence.
Comment allez-vous mélanger les styles entre improvisation et écriture, chanteur lyrique et orchestre jazz?
L'orchestre d'Ansas qui existe depuis 2007, excusez-moi, j'ai raccourci ça de son histoire, a déjà fait ce travail. C'est-à-dire que dans l'orchestre d'Ansas, il y a des gens du monde concertiste classique, du monde concertiste contemporain de musique contemporaine, du monde d'improvisation libre de jazz, du monde de jazz, du monde des musiques ethniques. Et c'est à moi d'avoir créé l'environnement pour réussir à fondre ces musiques les unes dans les autres et non pas les coller les unes aux autres. C'est très différent. Donc ces musiques fondues les unes dans les autres donnent une nouvelle couleur. Et ces chanteurs ont été choisis de la même façon. Ils viennent du lyrique, de la comédie musicale, des chansons improvisées ou pas. Et ils vont se retrouver dans un élément, en fait, où une certaine partie de l'orchestre joue un environnement qu'ils reconnaîtront très bien. Et une autre partie, ce sera un terrain de jeu, d'apprentissage, essayer d'aller vers un ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on a bien réussi à faire avec l'orchestre d'Ansas. Ça permet vraiment, comme j'explique souvent, moi j'écris pas pour un instrument, mais j'écris pour des prénoms. Parce que je connais les prénoms de mes musiciens et je pense à un tel ou une telle, à tel pupitre, plutôt qu'à un instrument.
Merci beaucoup Jean-Marie Machado.
Merci à vous, Laurent.
Je rappelle la création de La Falaise des Lendemains de Jean-Marie Machado à l'Opéra de Rennes du 7 au 10 novembre. On reste dans les pays celtiques et on poursuit dans le mélange des styles. écoutions un extrait de l'improvisation de Lise Barcas à la cornemuse et Yann Leguet à l'électronique, qui seront tous les deux présents au festival Densité, qui se tient du 1 au 3 novembre à Fresnes-au-Havre, dans la Meuse. Nous appelons tout de suite sa directrice. Bonsoir Emmanuel Pellegrini.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous.
Comment réussit-on à créer un festival dans un petit village de la Meuse ?
Ben comment, comme tous les autres festivals, c'est surtout pourquoi. Pourquoi ? Ben parce que j'en suis originaire et puis avec moi les musiciens qui ont créé le festival il y a 30 ans. On crée un festival parce que tout le monde mérite d'avoir un beau festival, y compris à la campagne. Il n'y a pas de raison.
Cette année, le festival Densité se place plus que jamais sous le thème de l'hybridation des styles.
Oui, alors vraiment, je dirais, c'est là-dessus que je travaille dans ma programmation depuis en tout cas 20 ans, vraiment sur l'hybridité. Hein. Et mon idée, c'est aussi de montrer d'autres pratiques. Hein. Il y a de la danse, il y a de la poésie sonore, il y a des arts plastiques, de la vidéo. Et aussi au sein, disons, du monde musical, d'aller vraiment d'un registre très très étendu, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'ensemble Luciline sur Morton Feldman, par exemple, donc de la musique écrite, jusqu'à ZX, qui est un groupe de rock un peu mythique. Et à l'intérieur de ça, c'est vraiment une palette de toutes les musiques, de l'improvisation, du paysage sonore, de la musique minimale et expérimentale. Donc c'est ça l'idée de Densité.
Et comment fait-on pour aller à Fresnes-en-Wavre ? C'est à côté de...
Alors, c'est très simple. En fait, quand on est parisien, c'est le plus simple. On prend le TGV, il y en a pour 59 minutes. C'est sur l'autoroute A4, entre Reims et Metz.
Merci beaucoup, Emmanuel Pellegrini.
De rien. Au revoir.
Le festival Densité se tient à Fresnes-en-Wavre les 1er, 2 et 3 novembre. On termine par un dernier festival qui lui aussi prône l'ouverture esthétique. C'est le festival Présence électronique qui fête les 1, 2 et 3 novembre ses 20 ans dans notre maison de la radio. Un festival emmené par François Bonnet et porté par un public jeune qui excède très loin les frontières du contemporain, du rock et de l'électro. On va y retrouver des géants du GRM, Christian Zanesi, Béatrice Ferreira, Daniel Terugi, François Bell, mais également des vedettes de la pop expérimentale comme le groupe Matmos.